Tout de suite, l'émission Dialogue entre cons, on est avec Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir. Rencontre ce mercredi à la frontière congolo-ougandaise des deux chefs d'État, Joseph Kabila de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? C'est le sujet au centre de la première partie du débat. Et puis, cette présence signalée depuis une semaine jusqu'à ce mercredi, des militaires angolais à Tava, Ina et Kuzi, deux villages du territoire de Mbanzangungu, c'est au Bas-Congo. Comment expliquer la présence de ces militaires non hésités par le gouvernement congolais? Ce sera la principale question de la seconde partie de ce dialogue entre Congolais. Nous en parlons avec nos invités, Soudi Alima Sikimputu, conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur du gouvernement national, le député national Gilbert Kiakwama, élu de Mbanzangungu, et le professeur Otemi Kongo Mandefu. Il est enseignant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kisangani, à l'université Graben de Butembo ainsi qu'à l'université de Goma. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Nous aurons le débat compromis par le tête-à-tête Joseph Kabila et Yoweri Museveni. Les deux présidents de la RDC et de l'Ouganda ont signé ce mercredi des accords sécuritaires et économiques entre leurs pays respectifs. C'était au cours d'un mini-sommet à la frontière commune entre les cités de Pondé, en Ouganda, et Kasindi en RDC, c'est à 80 km à l'est de Beni au Nord Kivu. Ces accords viennent matérialiser les conventions entre les deux pays lors du sommet de Ngurdoto en Tanzanie en 2007. L'élimination des groupes armés, la gestion des ressources transfrontalières en ce qui concerne les minerais sont les grands domaines concernés par la coopération RDC-Ouganda dans ces accords. Détail avec notre reporter présent à cet événement, Sylvain Sekilolo.
Ce mini-sommet intervient après deux jours de séances de travail entre les délégués des deux gouvernements RDP-Ouganda, un mini-sommet qui consacre les décisions issues des travaux des 10 experts de ces deux pays. Selon Séraphin Gouège, ambassadeur itinérant et délégué du chef de l'État dans la région des Grands Lacs, les deux chefs d'État ont confirmé leurs engagements pour la coopération bilatérale qui passe par l'échange des ambassadeurs prévu en fin mars. En outre, l'Ouganda va connecter en courant électrique Kasindi, Beni, Butembo et Lubero. Les deux États vont entreprendre une coopération en matière d'exploitation et d'exploration du pétrole et la gestion des problèmes frontaliers tels que la localité de Rukwandi qui porte à controverse entre l'Ouganda et la RDC. Il a également été décidé la poursuite de la sécurisation commune en éliminant les groupes armés en vue de procéder au rapatriement des réfugiés congolais vivants en Ouganda. Des commissions viennent d'être mises en place en vue de matérialiser les décisions prises. L'annonce par le chef de l'État du projet sur les raccordements en courant électrique a été accueilli avec satisfaction à Kasindi où depuis le matin, la population était mobilisée en vue de l'accueil du chef de l'État. Bébéni, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Merci Sylvestre Kilolo. Il faut signaler que le président Kabila était accompagné du ministre de la Défense Charles Mwando Simba, celui de la coopération Raymond Tshibanda et du ministre des Hydrocarbures. La réalisation me signale que tous nos invités sont en ligne. Soudi Alima Si, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, nous avons aussi le député national Gilbert Kiakwama et le professeur Otemi Kongo, vous êtes aussi en ligne.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Nous commençons par vous, d'abord, monsieur le député national Gilbert Kiakwama. Comment vous accueillez ces accords signés aujourd'hui entre les présidents congolais et ougandais?
Bien. D'abord, je crois que on ne peut que se féliciter que nos chefs d'État se rencontrent. Ils doivent se rencontrer pour examiner les intérêts réciproques de notre pays et de nos peuples. Donc, cela, c'est une bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, je suppose que les intérêts du Congo ont été bien sauvegardés et que nous apprenons qu'on va avoir l'échange des ambassadeurs. C'est une bonne chose, car c'est par les ambassadeurs que normalement, en diplomatie, les États communiquent, d'une part. On parle d'exploitation commune du pétrole. J'ai l'impression que, entre ce que le ministre Mende nous avait dit avec Tulloil et ce qui arrive maintenant, vous voyez, le passage est toujours un peu supersonique, on ne sait pas d'où on part et l'atterrissage. Il nous a dit autre chose, on devait exploiter le courant, le pétrole chez nous. Maintenant, il est à exploiter ensemble avec les autres. Quelles sont les conditions? Nous n'en savons toujours rien. L'électricité, on ne peut pas dédaigner qu'il y ait de l'électricité, bien sûr. Je suppose que ça se fait dans les meilleures conditions. Maintenant, lorsqu'on parle de continuer la coopération pour l'élimination des rebelles de l'ELRA, là se pose un autre problème.
Voilà.
L'inquiétude qu'on avait, c'est de savoir jusqu'où allaient les accords qui ont été signés. Ces accords qui étaient secrets. On ne sait pas quelle était la date qui était prévue pour que les troupes rwandaises, le troupe ougandaise quitte le territoire national. Comme on ne sait pas quand ils devaient partir, et maintenant on dit qu'on prolonge, quoi ? Le séjour où on n'a pas respecté les termes de l'accord signé. Et là se pose le problème de fond. Comme ce contrat a été secret, cet accord a été secret, donc on n'en connaît pas les termes d'engagement. Mais une fois de plus, pour nous, en tout cas s'agissant de ce problème-là, nous considérons qu'il s'agit là d'un manque de la parole donnée et que l'Ouganda n'a pas respecté la parole donnée, puisque nous faisons confiance à notre président qui nous a dit qu'il va sortir.
Mais
s'il ne sort pas, c'est que l'Ouganda n'a pas été au rendez-vous, à moins qu'on ne nous ait pas dit la vérité.
Oui, bon, il faut noter qu'à propos des opérations contre la LRA, il n'y a rien dit de concret ou de façon explicite sur ces opérations. Et tout ce qu'on note, c'est que c'est l'élimination des groupes armés, c'est ça, ce sont là les informations que nous avons reçues là-dessus. Mais nous retenons de vous, Gilbert Kakoma, que c'est de bonnes nouvelles que ces accords, ce rapprochement entre Kampala et Kinshasa se renforce, en attendant bien sûr d'avoir des précisions sur le pétrole.
Non, là, vous n'avez pas résumé ma pensée. J'ai donné ma pensée. La nation congolaise, l'opinion publique jugera ma pensée. Ce n'est pas vous à le résumer après. Je n'accepte pas ça.
Oui, mais parce que vous dites aussi des choses qui ne sont pas concrètes et qui sont pas exactes.
Moi, je dis ceci.
Ouais,
on se rencontre, c'est une bonne chose.
Oui.
Qu'on signe des accords lorsque les intérêts du Congo sont garantis, ce n'est pas une mauvaise chose.
Oui.
Mais j'ai relevé deux choses importantes.
Oui.
D'abord, s'agissant du pétrole. Ce n'est pas ce que le ministre Mende nous a dit au Parlement. Donc là, on s'est écarté de la ligne tracée par le gouvernement.
Oui, là, je vais prendre là-dessus.
S'agissant de l'accord sur l'ELRA et l'élimination de ce qu'on appelle les rebelles ougandais, il y avait aussi un problème qui se pose. Qui n'a pas respecté sa parole pour que ces troupes sortent de la République du Congo? Voilà les problèmes qui se posent.
Oui. Merci beaucoup. Je retiens justement ces problèmes. Hein. Je n'ai pas voulu dénaturer vos propos. Hein.
Soyez-en sûr.
Seulement, bon, je ne peux pas non plus permettre qu'on dise des choses qui ne sont pas correctes. On va continuer le débat avec Soubi Alimassi. Votre réaction là-dessus.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que on doit se féliciter de la rencontre entre le chef de l'État et son homologue ougandais. Et il faut que l'opinion sache. Et cette réunion est la poursuite des résolutions de l'accord Bengourdoto, qui a porté essentiellement sur les questions sécuritaires, sur les questions de l'énergie, sur les questions migratoires, les mouvements de rapatriement des réfugiés, de part et d'autre. Donc, ce sont les dispositions qui ont été prévues par l'accord conclu en Gourdoto en Tanzanie. Et cette rencontre a porté aussi essentiellement au rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Et on ne pouvait pas évoluer dans une méfiance mutuelle éternelle. Donc nous sommes très ravis de cette rencontre-là. Et on a évalué l'exécution de l'accord d'Engourdoto et plusieurs autres accords portant mesures d'application de l'accord d'Engourdoto ont été faits.
En
ce qui concerne l'exploitation conjointe des ressources,
notamment le pétrole,
Moi, je pense que le gisement qui est dans le lac Albert n'empêche pas que la République démocratique du Congo puisse exploiter ce qui se trouve de l'autre côté de la frontière commune. Mais s'il y a un gisement qui traverse la frontière, on doit exploiter ça conjointement. Et je ne vois pas comment ça peut énerver la représentation nationale. Ça ne vaut aucune disposition.
Voilà. Et il faut quand même rappeler que le ministre des hydrocarbures de l'époque, le ministre Mende, avait quand même dit que la RDC s'employait justement à exploiter le pétrole du côté congolais.
Mais tout à fait, je n'ai pas dit le contraire. Le gisement qui est dans le lac Albert se trouve du côté de la République démocratique du Congo. Peut être continué à être exploité uniquement par la République démocratique du Congo. L'accord sur l'exploitation conjointe ne peut porter que sur le gisement qui traverse la frontière commune. Et ça, si tout le monde qui a des experts peut l'expérimenter dans le lac Albert, le gisement traverse la frontière. Et c'est tout à fait normal, il faut qu'il y ait des accords mutuels pour l'exploitation commune.
On va terminer ce dossier avec le professeur Otemi Congo Mandefou. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, votre lecture de ce rapprochement entre la RDC et l'Ouganda.
Oui, à la suite de mes collègues qui viennent de prendre la parole, on prend bonne note de la reprise et de renforcement de la coopération diplomatique, militaire et économique entre les deux pays qui hier vivaient, se regardaient comme des chiens de faïence. Et je crois que ces accords de séjour contribuent grandement à la détente entre ces deux pays qui se sont fait la guerre. Et il s'agit là d'une application des résolutions ou des accords antérieurs sur le plan de la conférence régionale des pays de Grand Lac consacrée jadis sur la sécurité et le développement des pays de la de grands lacs africains. Et je crois qu'il faut saluer ce courage entre les deux chefs d'État qui ont mis de l'eau dans les vins et commencé à regarder davantage en direction du développement de leurs peuples respectifs.
Oui. Et puisque vous intervenez depuis la province orientale, et on sait que vous êtes très concerné par la présence de la LRA, et vous êtes satisfait notamment de ce qui sort de cet accord signé, notamment ce qui concerne les groupes armés?
Naturellement, après la traque des Interahamwe dans la province du Nord-Kivu, on a noté que la tension était plus davantage polarisée vers le Nord-Kivu, et maintenant que le gouvernement et les chefs de l'État se tournent vers la province orientale, on ne peut que se féliciter, dans la mesure où l'opération conjointe de l'armée ougandaise, congolaise et sud-africaine a quand même contribué à pacifier les régions qui, jadis, étaient occupées par le LRA. Et je crois, n'en déplaise à ceux qui sont énervés contre la présence des militaires ougandais, sur place, localement, la population souhaiterait davantage que l'armée ougandaise avec l'armée congolaise puisse encore davantage contribuer à ratifier la région de Dungu et toutes ces localités infestées par les LRA.
Oui, il faut dire que ce n'est pas encore explicitement dit, mais il faut peut-être corriger quand vous parlez de la présence de l'armée sud-africaine, c'est plutôt, vous voulez peut-être parler de l'armée sud-sudanaise.
Sud-sudanaise.
Merci beaucoup. Je rappelle que là, nous abordons notre premier sujet sur les accords passés aujourd'hui entre le président Joseph Kabila de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Peut-être, avant de passer au second sujet, est-ce que Gilbert Kakoma, ce député national, vous avez encore un petit mot?
Le mot demeure le même, c'est le flou artistique qui sont autour de ces accords. En fait, on ne sait pas d'où on est parti, ni quel est l'atterrissage. Alors, on se félicite pour quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne manière pour conduire une nation. Une nation, on doit lui donner une direction, on doit lui dire où on l'amène, quels sont les engagements qui sont pris, de manière à ce que ces engagements ne concernent pas seulement les dirigeants, mais qu'elles impliquent aussi nos peuples, parce que nos peuples doivent adhérer à tous ces engagements, donc dont le devoir d'expliquer, dont le devoir de communiquer, et notre gouvernement ne communique rien. On est chaque fois surpris, on est chaque fois devant le fait accompli. Moralité, ils prennent des engagements et qui n'ont pas de soubassement populaire. Voilà le grand grief que je peux faire à ces accords.
Il faut signaler que le président ougandais s'est adressé à la population congolaise de Kassindi à saluer ce réchauffement et pense que ça serait profitable aux deux peuples. Peut-être en quelques secondes, Soudi Alimasi Kekutu, vous qui êtes conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur.
la gestion des questions des groupes armés, les accords entre les deux pays, d'abord c'est une responsabilité du gouvernement. Et l'accord militaire est d'abord un accord secret. Il n'y a que dans notre pays où un accord militaire avec tous les plans stratégiques de la représentation nationale veut toujours que ça soit mis à nu sur une table.
Je pense pas.
Malheureusement, nous le regrettons, mais j'ai dit que c'était une évaluation des opérations qui se sont passées là-bas. Ce sont des opérations militaires. On est en train de traquer des personnes armées. Si, lors de l'évaluation, on estime qu'on n'a pas terminé le travail et qu'il faudra prolonger la durée pour faire face à ces menaces de ces populations qui vivent dans les difficultés en permanence là-bas. Qu'est-ce qui empêche à l'autorité nationale de prendre cette mesure-là? Il faudra que ça soit des sessions pour expliquer, pour dire voilà, notre armée va prendre tel acte. C'est malheureux. Il faut laisser le gouvernement faire son travail. C'est ça que la représentation nationale lui a demandé, de pacifier le pays. Tous ces accords-là portent d'abord sur le rapatriement volontaire de tous ces groupes. Et puis, il y a toujours une disposition qui est prévue dans tous les accords. Si il refuse de rentrer volontairement, il faut utiliser la force. Mais nous sommes à cette phase. Quel est le problème?
Merci beaucoup, c'est Soudi. Je sais que beaucoup de parlementaires, évidemment, pour eux, c'est pas de leur dévoiler tous les plans militaires. On va poursuivre l'émission avec le second sujet de ce débat. Présent signalé depuis une semaine, jusque ce mercredi, des militaires angolais à Sava, Ina et Kouzi, deux villages du territoire de Mbanzangungu, c'est au Bas-Congo. Comment expliquer la présence de ces militaires non invités par le gouvernement congolais? C'est notre second et dernier sujet du débat. Nous en parlons juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Je signale que nous gardons les mêmes invités, Souliani Massikimpoutou, conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur du gouvernement central, le député national Gilbert Kiakwama, élu de Mbanzangungu, au Bas-Congo justement, et le professeur Otemi Kongo Mandefou, enseignant à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, notamment à l'université de Kisangani, l'université Graben de Butembo et celle de Goma. La société civile du district de Cataracte, c'est au Bas-Congo, se dit inquiète de la situation humanitaire des habitants des villages Kouzi et Savaïna, à 200 km de Matadi, village occupé depuis une semaine par des troupes angolaises dans la province du Bas-Congo. Selon cette source, les populations qui sont restées dans ces villages n'ont plus accès à l'eau potable. D'après un membre de cette structure provinciale, aucune disposition n'a été prise pour le retour des personnes en fuite. Aux dernières nouvelles, on signale la présence de 3 camions remplis des éléments de la police nationale congolaise positionnés à Kilungongo. C'est environ 60 km des villages occupés. Détail avec notre reporter Daniel Kindanzita.
Selon la société civile de Mbanzangungu, non seulement les militaires angolais interdisent aux villageois restés à Kouzi d'aller puiser de l'eau dans la seule source que compte ces villages, les habitants de Kouzi ne sont pas autorisés à sortir du village ni à aller au champ. Un problème de ravitaillement en nourriture se poserait sur place. D'après la même source, environ 100 ménages seraient concernés par cette situation. S'agissant des populations qui avaient fui Kouzi et Savaïna, elles seraient réfugiées au village Kimbala et Sambou à plus de 25 km. Elles n'ont reçu jusqu'à l'heure actuelle aucune aide, à préciser un responsable de la société civile de Mbanzangungu. Quant à la présence des Angolais, les sources officielles de la société civile confirment que ces militaires sont toujours présents dans ces deux villages. Leur drapeau flotte sur place. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'informations par rapport au contact annoncé par le vice-gouverneur du Bas-Congo avec les Angolais. Pour rappel, tout a commencé le vendredi dernier. Tôt le matin, les militaires des forces armées angolaises ont fait incursion dans le village Savaïna. Ils ont arrêté un policier congolais qui s'apprêtait à hisser le drapeau de la RDC et l'ont amené avec son étendard à 45 km de la frontière. En territoire congolais, ils ont brûlé des maisons, saccagé des bureaux de l'État et se sont installés. Certains villageois ont trouvé refuge en forêt, a indiqué la société civile locale. Les mêmes sources ont affirmé que samedi dernier, avant d'occuper le village Kouzi, deux hélicoptères de l'armée angolaise avaient sillonné notamment ce village avant de l'occuper le lendemain. Matadi, Dani Kindanzita, dialogue entre Congolais.
Merci Dani. Et justement, Mbanzangungu, c'est le siège électoral, je dirais, de Gilbert Kiakwama, le député national, qui est l'un de nos invités. Gilbert Kiakwama, comment vous réagissez à cela?
Bien, d'abord, je suis étonné, et ici je reprends un peu ce que le conseiller Soudi disait tout à l'heure. Ça pose le problème de fond que je soulevais tout à l'heure. D'abord, ce problème semble être nouveau. On semble avoir découvert depuis vendredi ce qui est faux. Ce problème est ancien, car le 26 juin 2004, à Kwilongongo, les autorités congolaises, représentées par Deon Kousou et toute sa délégation, où il y avait des experts de tous genres, et la partie angolaise, représentée par le vice-gouverneur de la province de Zaïre, Garcia Monteiro, ont signé une convention. Et dans cette convention, il était bien établi que les deux villages, Kouzi et Saba, étaient bien des villages congolais. Alors, maintenant je pose la question, notamment à M. Soudi. Qu'a-t-on fait depuis le 26 juin 2004 ? Quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour d'abord sécuriser nos populations, pour d'abord affirmer notre souveraineté sur cette partie, puisqu'il y a eu un problème? Deuxièmement, quel est le suivi qui a été suivi? Concrètement, qu'a-t-on fait? Troisièmement, je viens du Bas-Congo. J'étais depuis dimanche au Bas-Congo. Mais les gens ne sont pas concernés par ce qui se passe. On leur dit pas ce qui se passe. Donc, une fois de plus, lorsqu'on dit qu'il faut communiquer, il faut informer, c'est une nation qui doit soutenir, défendre ses intérêts. Et là aussi, une fois de plus, il n'y a rien qui se fait. Troisième chose que je dis, mais qu'est-ce qui empêche notre gouvernement de saisir le Conseil de sécurité? Aujourd'hui, il est établi que les autorités angolaises n'ont pas respecté un accord signé que j'ai sous la main. Qu'a-t-on fait? Pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Pourquoi il ne saisit pas le Conseil de sécurité qui est en charge de ces problèmes des frontières? Donc tout ceci fait que notre gouvernement ne répond pas aux aspirations de notre peuple parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Je sais d'autre part que la MONUC se propose de quitter le Bas-Congo pour aller totalement à l'Est. C'est très bien, mais vous voyez que le problème de sécurité du Bas-Congo est toujours présent. On parle du bon voisinage. Quand va-t-on faire ce bon voisinage? On chante la fraternité entre le gouvernement ou entre les États. Mais quand est-ce que cette chose-là prend corps et prend image réelle? C'est ça le problème qu'on doit pouvoir nous répondre.
Général, comment avant qu'on vous réponde, qu'on réponde à vos questions, il y a Deo Kousou, le vice-gouverneur du Bas-Congo, qui vient de nous rejoindre dans ce débat. On va lui donner la parole. Mais en attendant, puisque vous avez parlé d'un accord, que vous avez l'accord de 2004, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en substance sur cet accord?
Ben, cet accord dit simplement, rapport final des travaux de la commission mixte interprovinciale du Zaïre avec la République d'Angola et du Bas-Congo. Eh bien, il est écrit, je lis les conclusions pour ne pas fatiguer nos auditeurs.
Oui.
Eh bien, je vais vous lire constat. À partir du village susnommé, Kouzi, les experts de deux délégations se sont rendus à pied et ont visité conjointement la position occupée par quelques éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, à la rivière de la forêt de Kimpemba. Deux, le constat des experts de deux parties, il se dégage clairement que la position susindiquée ne se trouve pas dans le territoire angolais. C'est écrit, mais elle est située à l'intérieur du territoire de la République démocratique du Congo, près de la ligne de frontière. Recommandation. De ce qui précède, et en vue de privilégier, de consolider les relations de consanguinité, de fraternité et d'amitié déjà existantes entre les deux peuples, frères de l'Angola et de la République démocratique du Congo, recommandons ceci. 1. Pour le cas de Kouzi, le retrait actuel de l'actuelle position des éléments de la police des frontières angolaises sur l'autre rive de la rivière Bindi. 2. La normalisation de la circulation des personnes et des biens que les échanges
oui.
entre les populations frontalières oui. dans le respect des normes internationales.
Oui, excusez-moi, Gilbert, en résumé, parce qu'il faut qu'on donne aussi...
En résumé, s'agissant oui. de Sava, ils disent la même chose.
Oui.
Le remplacement des forces armées de la République démocratique du Congo par la Direction générale de migration.
Oui.
Donc, il est établi que ces deux villages sont bien du village congolais.
Oui.
Maintenant, le problème qui se pose, qu'a-t-on fait depuis pour consolider
Merci.
Cette situation ?
Merci.
Que c'est là qu'on se pose le problème de fond.
Voilà. Votre réponse, Soudia Limassi Kimputu.
D'abord, en tant que collaborateur du ministre de l'Intérieur, nous n'avons pas à nous agiter devant cette question. Nous déplorons tout ce qui est arrivé à notre population, qui est sur cette partie. Mais je dois rappeler à l'honorable que notre pays, avec la République d'Angola, sont deux États voisins qui ont beaucoup d'accords de coopération et qui permettent à ce que ce soit au niveau provincial ou encore au niveau national, que certaines questions soient résolues en amont. C'est le cas de l'accord qu'il est en train de vivre. Mais il n'a pas dit quelles sont les revendications de l'Angola qui ont poussé l'Angola à poser des actes qui sont remarqués maintenant. Il a posé la question, quelles sont les discussions qui ont été prises par le gouvernement. Mais lui-même a oublié. Il peut lui dire qu'il y a une délégation qui est partie, récemment une délégation du Conseil de sécurité provinciale. Je suggérerais que le gouverneur de province soit là. Qui est parti rencontrer la délégation des provinces d'à côté pour discuter de la question. Et au moment où je vous parle, au niveau du gouvernement central, on a recueilli les revendications de l'Angola. Et on va se retrouver dans le cadre qui est produit à travers les différents accords que nous avons pour discuter et résoudre ces questions.
Que revendique l'Angola? Que revendique l'Angola?
L'Angola a une liste de revendications. D'abord, ils disent que sur cette partie de la frontière, c'est là où passent beaucoup de clandestins ouest-africains qui proviennent de notre pays, à partir de la frontière de notre pays. L'Angola, sur cette partie de la République, estime que les bornes frontières ne sont pas claires. Lorsqu'ils essayent de prélever les coordonnées conformément aux instruments qu'ils disent, on trouve que certains villages se trouvent au milieu de la frontière. Et dans les revendications toujours, ils disent que nos populations qui exercent des activités agricoles violent constamment la ligne frontalière et des fois il y en a qui s'installent de l'autre côté au sud de notre frontière commune. Et puis bon, il y a beaucoup d'autres actes qui se plaignent qu'un policier angolais aurait été tué par certains compatriotes congolais. Donc il y a une suite de revendications que le gouvernement central a déjà recueilli et il est en train de préparer une commission pour discuter avec l'Angola et voir d'abord d'état à état qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir le gouvernement déclaré une guerre avec l'Angola pour régler cette question.
Mmh.
Je tenais à rappeler
mmh.
que cette partie-là, après la question qui s'est posée à Kaimba,
mmh.
il y a eu deux commissions mixtes qui ont été constituées pour vérifier les 112 bornes qui séparent notre pays avec la République angolaise.
Mais c'est pas complètement...
Sur ces 112-là, on a la commission mixte n'a pu vérifier et rétablir ces 22 bornes. Mon frère de l'Angola était prêt, il a tenu. Je le regrette parce que la représentation nationale autorité budgétaire n'a pas permis au gouvernement de retenir le moyen pour relancer cette commission et contribuer, donner sa cote part, permettre à ce que la commission puisse terminer son travail.
On va vous redonner la parole parce que c'est quand même curieux, puisque l'Angola, lorsqu'il doit revendiquer, on constate quand même que l'Angola, c'est toujours par la force, et l'Angola occupe. Pourquoi ne pas vous poser d'abord le problème à travers les canaux habituels, ministre des Affaires étrangères?
Je crois que il y a des fois des débordements. Nous les déplorons aussi, comme État. Et nous sommes en train de nous préparer pour les signifier plus clairement à nos amis de l'Angola. Mais cela ne peut pas nous amener à réagir d'abord en dehors des cadres locaux qui organisent les contacts entre nos deux pays. Au niveau provincial et au niveau national. Là, la délégation du gouvernement provincial qui est partie, nous attendons les rapports
de cette commission du comité de sécurité provinciale qui est parti là-bas. Oui. Et le gouvernement national, après avoir recueilli les revendications, on est en train d'organiser une commission pour régler définitivement cette question qui s'est passée.
Oui. Puisque nous avons, on est obligé d'avoir d'abord le professeur Otemi Congo, très rapidement, professeur, parce que techniquement, cela nous permettra d'avoir Deo Okusu. Professeur Otemi Congo, juste en une minute, votre point de vue sur cette question, hein, qui rappelle un peu Kalimba, hein, cette question du Bas-Congo, finalement. Professeur ? Professeur Otemi Congo ? Voilà, on a perdu le professeur Otemi Congo, et je suppose que cela doit nous permettre maintenant d'avoir Deo Okusu. S'il est en ligne, on me signale qu'il est... Voilà, on va retrouver Deo Okusu tout à l'heure. Bon, je reviens vers vous, Gilbert Kiakoma, député national. Vous êtes élu de Mbanza Ngungu. Est-ce que vous êtes rassuré? Parce que, voilà, le conseiller
s'est expliqué. Je voudrais revenir un peu sur ce que vient de dire le conseiller.
Oui.
La première chose, c'est que personne ne donne l'impression que nous sommes tous des papes en guerre. On leur demande pas de faire la guerre. Mais seulement nous devons nous rendre compte que leur mécanisme de concertation ou de gestion diplomatique ne fonctionne pas. Première chose. Deuxième chose, c'est une récidive. Troisième chose, il n'y a pas, d'après ce que j'ai noté, de revendication territoriale. Donc il n'y a aucune raison de faire descendre un drapeau de la République démocratique du Congo pour le remplacer par le drapeau angolais. Le passage des étrangers, que ce soit la borne 24 ou 25, ou la violation des populations, mais mon frère, peut-on s'imaginer comment fonctionne une frontière lorsque de part et d'autre sont le même peuple? Mais ces gens, mais ils sont Nsaku, ils sont Panzu, ils sont Nzinga de part et d'autre, ils ont de leur famille de part et d'autre, ils sont mariés de part et d'autre.
Oui.
Donc quand ils vont pour travailler,
oui,
ce n'est pas pour ça qu'ils changent la frontière.
Voilà.
Donc il faut pas qu'on mélange les problèmes de la de vécu à la frontière. Les relations sont particulières, il est vrai,
oui,
mais on ne doit pas s'en servir pour faire des revendications territoriales.
Oui.
Et ensuite on parle des bornes.
Oui.
C'est moi dans le contrat. On donne les constats, ces bornes on a sont mal placées.
Mmh.
On donne les latitudes de tous ces bornes sont données. Il n'y a aucune observation en disant que ces bornes sont mauvaises ou ils ne sont pas à la bonne place.
Oui, Gilbert Kiakoma, je vous arrête un peu, permettez-moi, parce que on va donner la parole à Deo Okusu, monsieur le vice-gouverneur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que vous venez fraîchement, je suppose, de ces deux villages, quelle est la situation que vous ramenez du terrain?
Bon, merci beaucoup, j'ai dit bonsoir à vos auditeurs et à ceux qui sont sur le plateau.
Je vous en prie.
Je viens effectivement de Kouji, où j'ai été rencontrer mon collègue, comme j'assume l'intérim donc du gouverneur. Je viens de rencontrer mon collègue de la province de Zaïre.
En Angola.
En Angola. Et nous venons donc de mettre fin temporellement à cette situation, temporairement plutôt à cette situation, en attendant que la haute hiérarchie, qu'on se retrouve au niveau des affaires étrangères, disons au niveau de la haute hiérarchie.
Oui, mais quand vous dites que vous avez mis fin, c'est quoi exactement?
Nous avons demandé fermement et fraternellement à nos amis angolais de se retirer à 7 kilomètres de Kouji.
Et s'ils l'ont fait?
Ben, effectivement, ils l'ont fait. Symboliquement, mon collègue et moi-même, nous avons accompagné une famille, un père et une mère, ainsi qu'un enfant, pour leur permettre de rentrer. Vous savez, ce n'est pas évident. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas avec plaisir que je suis allé, pour la simple bonne raison que quelques mois seulement, un mois presque après ma nomination comme vice-gouverneur en 2004, j'étais déjà ici, à Kulungongo, avec mon collègue, l'ancien vice-gouverneur, pour négocier sur cette situation, pour travailler sur cette situation. Et effectivement, on avait abouti, on avait conclu naturellement, cette partie revendiquée par la République sœur d'Angola était vraiment congolaise. Malheureusement, l'Angola a renié sa signature, mais vous savez, hier, je l'ai encore dit sur votre chaîne, nous traitons cela fraternellement, diplomatiquement, nous privilégions l'aspect diplomatique. Comme l'a dit l'honorable Kiakoma, de part et d'autre, ce sont les mêmes ethnies, c'est les mêmes villas, comme on dit chez nous. Donc, il faut faire en sorte que les choses marchent le mieux possible. Et là, on est revenu à la... Je crois que les forces angolaises vont se retirer. et nous avons, mon collègue a parlé à la population et moi-même, je viens donc d'arriver à Kwilungongo.
Évidemment, nous, tout ce qu'on fera, c'est juste vérifier qu'effectivement, les forces angolaises se sont retirées. Mais je vous prie, puisque vous avez encore la parole, parce qu'il y a les auditeurs qui ont écrit, qui ont réagi sur...
Vous savez, nous avons, en fait, comme l'a dit, je crois, le représentant du ministère de l'Intérieur, nous avons envoyé une délégation conduite par le général Raus.
Mmh.
Bon, je n'ai pas voulu le dire hier, parce qu'ils étaient en train de travailler avec leurs collègues. Donc, la police, l'armée, l'ANER, la DGM, tous nos collaborateurs étaient à Mandakongo, donc il ne fallait pas le gêner. Et aujourd'hui, sont arrivés par hélicoptère avec mon collègue gouverneur de la province de Zaïre en Angola. Et nous avons regardé, vous savez, les revendications qui nous ont été présentées. Vous savez, quand il faut sortir de vieilles personnes, je les respecte beaucoup, mais qui ne sont pas suffisamment outillées.
Ouais.
Quand on va vous dire devant une église qui avait une borne qu'on a enlevée en 1966, alors c'est là où est l'église n'a été construite qu'il y a deux ans, et que, à son temps, il y a cinq ans, nous avons envoyé sur place observer donc la borne, voir la borne 24, la borne 25.
Oui.
Vous savez, ça prête un peu à... Mais bon, nous oublions tout ça.
Oui.
Nous sommes revenus au bon sentiment. Nous allons tous nous en remettre à nos hiérarchies respectives. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça va se régler dans une commission mixte que nous appelons de tous nos voeux très, très prochainement.
Voilà. En attendant, le dossier préoccupe la population. Il y a Émile de Kinshasa. Il pense que c'est le manque de moyens de défense et n'ayant pas une armée forte que la RDC est toujours menacée. La présence des militaires angolais dans le Bas-Congo en est une preuve. Ce n'est pas une surprise que les militaires angolais occupent le sol congolais, d'autant plus que le dossier de Kaimba est resté jusqu'à ce jour sans issue. Propos de Joseph Charumba, étudiant à l'université de Lubumbashi au Katanga. Kaboudri José à Isiro, province orientale, demande au gouvernement congolais de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces soldats ne s'en prennent à la population locale. Est-ce que la RDC dispose vraiment d'une armée capable de protéger ses frontières? Question de Dieudonné Ouyer Diou, étudiant à Bukavu, dans le sud Kivu. Et puis Jean-Philippe, depuis Isiro, il dit que le Congo est devenu l'objet de menaces parce que notre gouvernement, je cite, n'a pas encore imposé son autorité. Est-ce que vous répondez très rapidement de Okusu avant qu'on redonne la parole à d'autres invités?
Vous savez, ces choses-là ne se traitent pas si facilement. Nous avons plus de 10 000 kilomètres de frontières. Je n'ai pas à donner de détails ici, mais nous avons simplement dit à nos amis, notamment par exemple angolais, que vous savez, il existe même un protocole signé entre les Belges et les Portugais. Donc, ça s'est fait en 1925. Et du côté des Kabila, il n'y a aucune revendication.
Oui.
Donc, ce n'est pas parce que forcément notre pays est aujourd'hui faible. D'ailleurs, cette faiblesse, il attire d'une gestion que je ne voudrais pas ici rappeler. Mais je crois qu'aujourd'hui, au lieu de chercher à affaiblir encore notre pays,
oui,
je pense qu'il faut soutenir le président de la République dans les efforts qu'il est en train d'accomplir, le gouvernement, l'Assemblée nationale, tout le monde doit soutenir ce gouvernement, notre pays, pour que nous puissions devenir ce que nous fûmes, une armée forte, armée organisée avant que Mobutu ne soit vraiment sa dictature et oublie qu'il y a un pays, il faut pas seulement des gardes pour garder les chefs d'État, mais aussi une armée pour défendre ses frontières. Car cela n'est pas. N'oubliez pas que l'Angola est devenue indépendante en 1975. Après la guerre de libération, après la guerre entre eux, aujourd'hui, ils essayent un peu de regarder un peu partout où ils peuvent grappiller du terrain.
Oui, mais
je vous dis, en ce qui concerne le Bas-Congo,
que
les choses sont claires
et
que nous en remettons maintenant aux experts, tant nationaux qu'internationaux, mais ça, ce n'est pas moi, vous comprendrez, ce n'est pas à moi de le décider, ça va se décider au plus haut au niveau.
Oui, mais c'est parce que vous parlez du plus haut niveau, évidemment, nous avons un conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur, justement, du gouvernement national,
le ministre est en train de suivre tout ça.
Oui, justement. Soudi Alimassi, je sais que vous êtes encore dans ce débat. Comment vous expliquez que des Angolais viennent et neutralisent quelques policiers qui sont dans les deux villages, hissent le drapeau angolais? C'est un peu comme s'il y avait... Il n'y avait pas assez d'hommes pour sécuriser les frontières. Ça veut dire n'importe qui peut entrer et sortir comme il veut.
Écoutez, il ne faut pas plus voir les côtés faiblesse de l'armée congolaise ou de la police congolaise. D'abord, il faut souligner que les éléments de l'Angola qui viennent poser ces actes au niveau de la frontière sont de la police de frontière. Donc, ce sont des éléments de la police. Alors, il y a, je vous ai rappelé ici, que le niveau central avait initié une commission mixte avec la République d'Angola. Cette commission avait déjà commencé son travail pour répertorier toutes les bornes et restituer les limites frontalières entre notre pays et la République d'Angola dans la partie comprenant 112 bornes, y compris la province du Bas-Congo. Je vous ai bientôt rappelé qu'il n'y a que 22 bornes sur les 112 qui ont été vérifiées. Il y a un problème de moyens qui s'est posé et le travail s'est arrêté. Je sais que, parce que on est obligé de vous le dire, notre pays a connu des problèmes de moyens pour contribuer à ce que cette commission puisse continuer à faire son travail jusqu'au bout. Et nous avons un grand travail. C'est le même problème qui se pose.
Oui.
Si vous allez par exemple à Goma,
oui.
Est-ce que on vous a déjà parlé de la frontière entre nous et le Rwanda sur la partie qui nous sépare avec Gitini? C'est le même problème.
Oui, oui, tout à fait.
C'est la différence, c'est que, de l'autre côté, nos amis de l'Angola, des fois, ils viennent, ils posent des actes, c'est déplorable. Mais je crois que cela n'excuse pas nous envoyer, d'abord comme État qui se respecte, à négocier ou régler cette question par une méthode brutale. Nous devons d'abord recourir aux instruments juridiques qui nous unissent. Et c'est dans ce cadre-là que je vous informe que la commission sera relancée pour terminer d'abord rapidement le problème qui est sur cette partie. Et poursuivre dans le reste de la frontière.
Oui, mais ceci dit, allez, moi, très rapidement encore une petite question, parce que vous dites tout à vous avez dit tout à l'heure que c'est la police de frontière hein, de l'Angola, c'est pas l'armée. Mais je me souviens que dans ce même débat, dialogue entre Congolais, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur, vous aviez promis la création d'une police de frontière. Elle est où pour que des policiers angolais entrent et installent leur drapeau?
La police de frontières est déjà créée par l'ordonnance du chef de l'État.
Elle est où?
Elle est en train d'être formée, mais elle n'est pas encore déployée sur l'étendue du territoire.
C'est Gilbert Chacoma.
Oh, je me réjouis que tout le monde est dans de bonnes dispositions, que tout le monde est serein pour poser les problèmes de l'État. Le vice-gouverneur Léon Koussou, que je félicite pour avoir été sur place, je crois qu'il a pu se rendre compte de la route que j'ai faite moi-même il y a 4 mois, elle est impossible. Mais je voudrais surtout dire 2 choses qu'il a dites. La partie angolaise a renié sa parole. Ça, c'est très important à souligner. Donc, lorsque nous signons les accords, nous devons nous assurer que nos partenaires les signent dans la bonne foi, dans la vérité et la justice. Nous devons toujours nous assurer qu'ils sont sincères avec nous. Deuxièmement, le vice-gouverneur a dit aussi que c'est un accord temporaire. On a mis fait temporairement. Donc, on n'est pas encore dans le dit définitif. Voilà un autre temporaire, alors qu'il y avait déjà un temporaire depuis 2004. Lui, il est dit, au moment où il prend ses fonctions. Pourquoi cet accord n'est pas devenu définitif? Qu'est-ce qui l'empêchait d'agir, lui ou le gouvernorat? Ou le gouvernement central.
On doit terminer cette émission, Gilbert Chacoma. Je vais vous demander de placer le tout dernier mot pour qu'on arrête.
Dernier mot, c'est de dire simplement que toute cette agitation, toutes ces agressions vis-à-vis de notre pays n'ont qu'un seul fondement. Nos partenaires, nos voisins nous considèrent comme un pays faible. Et pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas rien, mais alors rien du tout. En retour, si nous avions une armée disciplinée, républicaine, dissuasive, personne ne se permettrait ce qu'on est en train de faire. C'est à toutes les frontières qu'on nous attaque. Au Soudan, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie. Tout le monde fait son petit jeu avec le Congo. C'est inacceptable.
Merci beaucoup, Gilbert Chacoma. Merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Deo Koussou, vous allez y répondre très rapidement, surtout qu'il y a Gilbert Kalekwa de l'Équateur qui vous demande justement si le fait que les militaires angolais hissent leur drapeau sur le territoire congolais n'est pas une déclaration de guerre et une violation du territoire.
Ce n'est pas une déclaration de guerre. Comme l'a si bien dit mon ami Maître Sou du ministère de l'Intérieur,
oui. C'est
que c'est la police de frontières. Hier, je l'ai dit encore sur votre radio, ce sont des éléments incontrôlés. Je crois que pour ne pas vexer qui que ce soit,
oui. C'est
au niveau local que ces problèmes-là se posent.
Oui.
Quand vous voyez ceux qui se disent spécialistes pour traiter ces dossiers,
oui. Vous
voyez vraiment qu'ils ont des a priori et
oui. Ils
n'ont pas d'éléments scientifiques. Je voulais aussi saluer mon grand frère Moutakakwa Matakizuki. On était hier enterré Moutapuluka. Donc, je suis bien rentré à la maison et croyez-moi, nous allons bien défendre les couleurs de la province du Bas-Congo. Au-delà de cela, les couleurs de notre pays et soutenir le chef de l'État dans l'effort qu'il emprunte.
Merci beaucoup. Merci à tous nos invités. C'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyanga, ça a été à la technique. Claude Kianza, Guy Maté, Kéline Couté et Magali Kabané à la réalisation. Merci de nous avoir suivis.